Donc, je m'appelle Axel Ferrière. D'abord, merci beaucoup de l'invitation, je suis ravie d'être là. Donc moi, je suis, comme il a été dit, je suis chargée de recherche au CNRS et je suis assistant prof à l'École d'économie de Paris, donc PSE, depuis septembre dernier. Donc moi, je suis une macroéconomiste, je fais donc de la macroéconomie quantitative. Donc en pratique, ça veut dire que je m'intéresse au comportement de divers agrégats économiques. Et en particulier, j'essaye de mesurer de la manière la plus précise possible l'effet d'une variable économique X sur une autre variable Y. Et donc pour ça, en général, je construis des modèles que je discipline, c'est-à-dire que je calibre, à l'aide de données... Donc, vous m'entendez peut-être mieux. Donc pour cela, en gros, je construis des modèles, je disais, que je vais discipliner ou calibrer en me servant de données empiriques existantes. Et ensuite, je me sers de ces modèles comme d'un laboratoire, en quelque sorte, pour explorer les effets qui m'intéressent. Donc, au début de ma thèse, que j'ai faite à l'Université de New York et que j'ai soutenue il y a près de 3 ans, j'ai d'abord travaillé sur les effets macroéconomiques du risque et de l'incertitude. Donc en pratique, j'ai développé des modèles avec ce qu'on appelle de l'ambiguïté. Donc, ce sont des modèles dans lesquels les agents économiques, c'est-à-dire les travailleurs qui sont aussi consommateurs, épargnants, sont incertains quant à la distribution des chocs macroéconomiques à venir. Et dans ces modèles, j'ai tenté d'analyser dans quelle mesure, par exemple, cette aversion à l'ambiguïté pouvait expliquer la persistance de la dernière crise. Bon, et ensuite, j'ai un peu changé d'intérêt de recherche, et durant les 3 années que j'ai passées ensuite à Florence, à l'Institut universitaire européen, j'ai surtout travaillé sur des sujets qui se situent à l'intersection de la macroéconomie et des inégalités. Et donc, aujourd'hui, je vais vous parler brièvement de 2 sujets dans ce champ. Donc, un premier qui concerne les effets multiplicateurs de la dépense publique, et ensuite un deuxième qui touche à la question de l'ouverture au commerce international. Donc tout d'abord, inégalité et effet multiplicateur. Donc ici, je vais m'appuyer sur un papier de recherche que j'ai coécrit avec Gaston Navarro, qui était en thèse avec moi à NYU et qui est maintenant un économiste à la Banque Centrale Américaine. Donc dans ce papier, qui a en gros été motivé par le stimulus fiscal massif mis en place sous la présidence de Barack Obama aux États-Unis en 2009, nous intéressons à l'effet multiplicateur de la dépense publique, c'est-à-dire à l'augmentation du PIB induite par un stimulus fiscal, donc par une augmentation de la dépense gouvernementale qui est temporaire et éventuellement exogène. Et donc, dans ce projet, nous montrons que les effets multiplicateurs des dépenses publiques sont plus importants ou plus forts lorsque les impôts sont plus progressifs. Donc, pour établir ce fait empirique, nous sommes servis de données historiques puisque nous avons créé une mesure de la progressivité aux États-Unis qui remonte dans le temps jusqu'à la création de l'impôt fédéral en 1913. Donc ensuite, pour mieux comprendre ce résultat empirique, nous avons construit un modèle dans lequel les agents sont hétérogènes en termes d'épargne et en termes de productivité. Et donc dans ce modèle, il va y avoir 2 mécanismes qui vont contribuer à répliquer le résultat empirique que l'on a trouvé. Donc tout d'abord, un mécanisme que j'appellerais keynésien, qui est relié à l'hétérogénéité en termes d'épargne. En gros, les agents qui ont le plus haut patrimoine ont aussi des propensions marginales à consommer qui sont plus faibles. Et donc, ces agents auront moins tendance à réduire leur consommation en réponse à une augmentation des taxes qui est temporaire, qui servirait à financer un stimulus fiscal. Donc ça, c'est un premier mécanisme qui contribue à générer un résultat, mais il y en a un deuxième qui est plus lié au marché du travail et qui est plus lié à la seconde dimension de l'hétérogénéité, à savoir la productivité. Donc, en gros, dans le modèle, tout comme dans les données, les agents qui sont les plus productifs, donc avec les plus hauts salaires, ont tendance à avoir des élasticités d'offres de travail qui sont plus faibles, en particulier quand on prend en compte la marge extensive, donc la participation. Si bien que les agents qui sont donc avec les plus hauts salaires auront moins tendance à réduire leur offre de travail en réponse à une augmentation temporaire des impôts, encore une fois pour financer le stimulus fiscal. Donc, en gros, ce qu'on montre dans le modèle, ce que le modèle nous apprend, c'est que donc, ces 2 mécanismes contribuent au résultat, mais en fait, celui qui est le plus important quantitativement pour expliquer le résultat, c'est le deuxième, alors que c'est un mécanisme qui a été moins étudié dans la littérature. Mais au global, ce papier s'inscrit dans une littérature plutôt plutôt récentes qui tendent à montrer que concentrer les impôts sur les plus hauts revenus, qui tendent à appuyer l'idée que c'est plutôt positif de concentrer les impôts sur les plus hauts revenus pour lisser les chocs fiscaux de court terme. Voilà, et maintenant, dans les quelques minutes qui me restent, je vais vous parler de mon second projet sur le commerce international, qui, encore une fois, se fonde sur un papier avec Gaston Navarro et ici, Ricardo Reyes-Heroles, qui est également un économiste à la Banque centrale américaine. Donc, ce papier trouve son origine dans le débat bien connu sur les effets de l'ouverture au commerce international, débat que je pourrais résumer de la manière suivante. Donc, certes, le commerce génère des gains, mais il est aussi accusé, en particulier par Donald Trump, évidemment, d'avoir exacerbé les inégalités. Et il est vrai qu'il y a une littérature empirique de plus en plus dynamique qui tend à montrer que les gains générés par le commerce sont en effet distribués de manière assez inégale entre les travailleurs, en particulier selon la région, selon le secteur d'activité ou selon le niveau d'éducation. Donc nous, pour comprendre les effets du commerce sur les inégalités, eh bien, on a encore une fois construit un modèle dans lequel les agences sont hétérogènes, non seulement en termes de revenus et en termes de productivité, mais aussi en termes d'éducation. On va avoir des travailleurs qualifiés et des travailleurs non qualifiés. Et donc, dans ce modèle, on a étudié l'effet de l'ouverture au commerce et on montre que, bon, d'une part, le commerce génère des gains. Pourquoi ? Ben, en gros, il contribue à faire baisser le prix des biens, donc à booster la consommation. Mais il génère aussi des inégalités. En gros, relativement au salaire des travailleurs qualifiés, le salaire des travailleurs non qualifiés tend à baisser à cause de l'augmentation de la compétition liée à l'augmentation de l'importation de biens qui sont plus intensifs en travail non qualifié. Mais la contribution principale de notre papier, c'est vraiment de montrer que cette relation entre commerce et inégalité, elle est dynamique. En particulier, le commerce augmente les inégalités de manière modérée à long terme, mais de manière beaucoup plus forte à court terme. Donc pourquoi est-ce qu'on a cet effet non stationnaire ? Et bien simplement parce que une hausse du salaire relatif des travailleurs qualifiés, qui résulte de l'ouverture au commerce, va inciter les travailleurs à investir plus dans leur éducation et à acquérir des qualifications pour devenir travailleurs qualifiés. Donc, à moyen terme, on va avoir une augmentation du nombre de travailleurs qualifiés qui va permettre de réduire les inégalités. Mais bien sûr, investir dans l'éducation, c'est un mécanisme d'ajustement qui est particulièrement coûteux en temps et en ressources. Et donc, l'économie ne peut pas s'ajuster en un jour à un tel changement. Donc la contribution principale de ce papier, c'est vraiment de mettre en avant le fait que les coûts de transition, qui sont certes temporaires, peuvent être importants. Et bien sûr, ça a beaucoup d'implications politiques, fiscales ou douanières, sur lesquelles je reviendrai peut-être plus tard s'il y a des questions. Voilà, merci.